Si t'es pas motivé, si t'es pas amoureux de ce que tu fais, ça sert à rien. Tout est tellement plus agréable et tu te fais tellement plus mal au travail si tu fais quelque chose qui te plaît, quoi.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! À seulement 22 ans, c'est la sportive préférée des Français. Elle est championne olympique et a tout gagné dans sa discipline, le ski de bosse. Et oui, nous avons eu la chance de partager un petit moment à distance avec la géniale Perrine Lafont. Si vous avez plutôt l'habitude de la voir à l'œuvre en plein hiver neigeux, eh bien nous, on a voulu savoir ce qu'il se passait en hors-saison pour elle. Comment elle se préparait physiquement et mentalement, ce qu'elle faisait de son temps libre, mais également comment elle abordait cette année olympique. Spoil, on est en plein mois de juillet et juste après l'interview, elle avait entraînement de ski, oui. On en a également profité pour revenir sur sa carrière, ses victoires précoces et la manière dont elle gère ce statut de figure star du sport français. Perrine, c'est une bouffée de fraîcheur et en plein mois de juillet, on ne va pas s'en priver. Et petite surprise, à l'approche des Jeux Olympiques, on vous propose pendant 3 semaines un nouveau format, Tokyo Mood, où vos sportives préférées nous font un débrief de leur état d'esprit et de tout ce qui leur arrive pendant ces Jeux Olympiques. Une façon de vivre un peu avec elles, cet événement hors norme. On vous dit à tout vite. Salut Perrine !
Salut !
Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va très bien, merci, et toi ?
Ça va super, écoute, je suis ravie qu'on puisse se parler et qu'on puisse enregistrer ce podcast, c'est vraiment top. Alors on est malheureusement pas ensemble, on fait ça à distance, je crois que t'es quoi, t'es chez toi alors en ce moment ?
Non, même pas, je suis sur à Tignes, en entraînement sur le glacier. On skie depuis un mois et demi quasiment là.
Ok, du coup sur le glacier, vu qu'on est effectivement au mois de juillet, donc c'est un petit peu plus compliqué d'avoir de la neige, j'imagine.
Ah non, du coup, vu qu'on est sur le glacier et qu'on est haut en altitude, tu vois, on est à 3008, et ben on skie, on est vraiment sur la neige. Après, c'est vrai que là, bon, bah, mi-juillet, ça commence à tanguer un petit peu vers la glace. Mais non, vraiment, on a eu des super conditions, on s'est bien entraîné, donc c'était cool.
Trop bien. Ah bah écoute, justement, pour rentrer un peu dans le vif du sujet directement, effectivement, bon là, c'est assez rigolo, enfin c'est un peu atypique parce qu'on se parle sur ton hors-saison, on va dire. Je sais pas si toi tu le dis comme ça ou pas. Sachant que bien évidemment tu fais du ski de bosse, donc on est quand même sur un sport d'hiver. Ta saison, c'est tu commences les compétitions vers décembre. Et ça finit vers mars à peu près, c'est ça ?
Ouais, exactement, ouais.
Du coup, en fait, donc ça, c'est ta période full-time, compète à travers le monde, hein, très clairement, parce que t'as des compètes un peu partout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que pour que, du coup, les gens aussi puissent comprendre un petit peu ce qui se passe de mars, enfin fin mars, avril, à novembre, donc sur les 9 autres mois de l'année, comment ça se séquence un peu?
Typiquement, le mois d'avril, en termes d'entraînement, il est off, donc on n'a pas de préparation physique ou même on skie pas, à part ceux qui ont envie d'en faire, mais c'est pas au programme. Et du coup, bah moi, pendant ce temps-là, je fais tout le taf qu'il y a à faire avec les partenaires, les sollicitations, les médias, ou je fais de l'école aussi un petit peu parce que je fais encore des études. Au début mai, on rattaque l'entraînement, donc ça va être principalement de l'entraînement physique pour refaire la musculature, réadapter le corps, aux charges de travail. Mois de juin, on va faire un petit peu d'acrobatie. Donc pour travailler soit les nouvelles figures ou pour corriger les défauts. Et après mi-juin, on attaque sur les skis jusqu'à quasiment mi-juillet, des fois fin juillet. Après, on a un petit peu de vacances au mois d'août. Mi-août, on rattaque encore la prep physique jusqu'à mi-septembre. Mi-septembre, on attaque le ski. Et on fait du ski à peu près et un peu de prep physique jusqu'au début de la saison qui est en décembre.
Ok, donc c'est vrai qu'en fait on se rend pas forcément compte, je pense, quand on se dit nous on te voit en compétition 3 mois de l'année, donc ouais. Je pense qu'on se rend pas trop compte qu'en fait finalement c'est quasiment tu le disais, t'as 1 mois de vacances en gros sur l'année, et après le reste du temps finalement en fait tu t'entraînes aussi, donc c'est du 11 mois sur 12 de préparation pour ton sport, quoi.
Ouais, vraiment, vraiment, c'est ça. Et je pense que tous les skieurs, on est un petit peu comme ça. Ça nécessite vraiment des grosses périodes d'entraînement pour préparer le corps l'hiver. Et nous, typiquement, on dépend aussi des conditions de neige. Donc, on est sur les saisons d'hiver qui sont de début décembre à fin mars, quoi.
Ouais, c'est hyper atypique, parce que juste avant effectivement qu'on démarre l'interview, tu m'as dit que tu étais donc en train de t'entraîner à côté de Tignes sur les glaciers. On s'imagine pas forcément que début juillet en plein été tu t'entraînes à faire du ski, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est clair, on pourrait voir qu'on est à la plage ou aller à la limite physique et tout, mais non, ouais, on est sur les skis. Et on a de la chance d'ailleurs d'avoir des glaciers en France pour pouvoir s'entraîner, parce que y en a, ils n'ont pas cette chance-là et ils sont obligés soit de venir en France ou d'aller ailleurs, quoi.
Toi, ta préparation, tu disais, donc du coup, tu fais de la préparation physique, tu as de la préparation mentale aussi. Je crois que ce n'est pas forcément le cas de tous les athlètes, mais en tout cas, toi, tu as décidé de te faire accompagner aussi sur cette partie-là.
Ouais.
Ta préparation physique, en fait, c'est... Tu t'expliquais que tu faisais un peu de renfo, donc ça veut dire, tu sais quoi, si tu fais de la salle, tu fais aussi, tu vas t'entraîner. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus rentrer aussi dans le détail, qu'on comprenne un peu mieux?
La prep physique, typiquement, on fait beaucoup de musculation, donc pour muscler le corps. On fait du cardio aussi pour l'endurance. Après, on fait de la proprioception pour travailler les muscles profonds autour des articulations. On fait vachement de gainage aussi, pareil, pour travailler les muscles profonds. On va faire de la rapidité aussi, de la rapidité de jambes, parce que nous, on est un sport où il faut bouger très vite ses jambes.
Ouais.
Et après, on va faire de l'explosivité aussi pour les réceptions de saut, après tout de suite repartir. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait en musculation.
Et est-ce que ta off-season, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais... elle est différente quand on est en année olympique, ou est-ce que finalement, que ce soit une année olympique ou pas une année olympique, ça change pas grand-chose et t'es toujours dans les mêmes rituels de préparation?
Non, franchement, c'est typiquement pareil. Après, on va s'adapter un petit peu au programme des Coupes du Monde, donc si ça attaque plus tôt ou un peu plus tard. Mais non, c'est sensiblement pareil d'une année à l'autre, peu importe les échéances sportives qu'il y a, quoi.
Et toi, ça a évolué, toi, ta préparation aussi au fur et à mesure des années? Parce que j'imagine que quand t'avais 15 ans, que tu préparais tes premiers JO, et maintenant, où là, tu prépares les troisièmes, est-ce que la façon de t'entraîner, tout ça, ça a quand même évolué au fur et à mesure du temps?
Quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'avais un planning d'entraînement qui était moins structuré. Et c'est lorsque j'ai intégré l'équipe de France que là, j'ai eu un planning hyper précis. Et ça fait depuis que j'ai 15 ans que je suis en équipe de France. Donc ouais, ça fait un petit moment que je suis quand même carré sur toute ma préparation. Après, oui, elle a évolué au cours du temps, parce que maintenant j'ai plus les mêmes besoins que ce que j'avais il y a 4 ou 5 ans. Avant, on allait pareil au mois d'août en Australie pour continuer de skier. Maintenant, crise sanitaire, on peut plus y aller, donc ça a évolué un petit peu, mais ça reste toujours pareil, ouais, quand même.
Je me dis, comment tu fais quand t'es en hors saison, quand t'as pas des compétitions, quand t'as pas des échéances, en fait, pour rester focus dans ces périodes-là, pour garder la motivation? Parce que j'imagine que forcément, quand t'as des compètes, que du coup t'as des échéances que tu sais qui vont arriver, c'est peut-être plus facile de garder le cap quand t'es pendant 9 mois sans forcément d'objectif de compétition, pour continuer à garder la motivation, pour aller t'entraîner tous les jours. Comment tu fais, c'est chaud, quoi. Comment tu fais pour rester focus et pour garder la motivation?
Pour moi, j'ai pas besoin de travailler pour la garder, parce que pour moi, elle doit venir naturellement. Et mine de rien, le ski, c'est mon métier. Donc, il faut que tous les jours, j'aille à l'entraînement, et je sais que ça se passe comme ça. Et je sais que si je veux que ça marche, et si je veux évoluer dans, dans mon ski, dans mes sauts, il faut que j'aille travailler, tout simplement. Après, je dirais peut-être que c'est un petit peu plus dur sur les périodes d'été, quand on voit tout le monde qui est en vacances et que nous, on est sur un glacier.
Les photos sur Insta où tout le monde met les photos de mer.
Et du coup, c'est là le plus compliqué, mais sinon ça va, quoi.
En même temps, ça fait des années maintenant, t'as commencé hyper jeune, t'es devenu pro, on peut dire, depuis limite tes 15 ans, parce que t'es rentré en équipe de France, en fait, à ce moment-là. Donc toi, c'est une routine que t'as maintenant depuis des années. Donc finalement aussi, peut-être que t'es tellement là-dedans que c'est devenu normal, en fait, c'est devenu ton quotidien.
Clairement, en fait, de toute façon, je sais que si je veux être en forme l'hiver, que je veux pas être dans la galère et tout, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je travaille. Si je veux évoluer sur mes sauts, que je veux être meilleure et même en ski, il faut que j'aille travailler. Donc, tout simplement, je sais que ça passe par des grosses périodes d'entraînement. Donc, pour moi, oui, c'est tout à fait naturel de faire tout ça.
Oui, c'est marrant, c'est quand on t'écoute, du coup, on a vraiment l'impression que c'est... Tu sais que c'est... en fait, c'est normal, limite. Mais pourquoi me poses-tu cette question? C'est juste... c'est juste normal. C'est juste normal.
Ouais, on a une vie bizarre. C'est pas un vrai travail sportif de haut niveau, mais mine de rien, si, voilà, c'est, si je veux un aboutissement, il faut travailler comme quelqu'un qui va travailler pour avoir son salaire à la fin du mois, quoi.
C'est marrant que tu dises ça, parce que tu dis c'est pas un vrai travail. Mais c'est un vrai travail d'être sportif de haut niveau, parce que quand on t'écoute, en plus, tu dis bien que ça te prend 11 mois de l'année.
Oui, c'est un vrai travail, mais en même temps, on est quand même sur une autre planète aussi. Enfin, on n'a pas des horaires fixes, on voyage aux quatre coins du monde. C'est un vrai travail, mais c'est pas un travail pas banal, parce que c'est pas banal les travails des gens. Mais en gros, c'est un travail qui est différent quand même et qui est pas commun, voilà.
Et ça veut dire que finalement, toi, là, quand tu réfléchis... je pose des questions que je t'aurais posées après, mais quand tu réfléchis ta vie, tu dis finalement, là, c'est ton travail pas commun pendant une période de ta vie, et après, derrière, tu t'imagines dans un travail plus commun, on va dire, pour reprendre tes mots.
C'est un petit peu ça. C'est sûr que le sport de haut niveau, je vais pas pouvoir en faire toute ma vie. Je fais un sport où il y a des chocs, où le corps... beaucoup de contraintes quand même, donc c'est les 30-35 ans grand maximum. Après, je pourrais pas en faire toute ma vie, donc il va falloir que je trouve un travail après, et ce sera un travail un peu plus commun, quoi.
D'ailleurs, c'est aussi une question bête, mais est-ce que c'est possible, quand t'as vécu 15 ans de ta vie à faire ce métier là qui est atypique, avec des horaires atypiques comme tu le disais, d'après rentrer dans le rang et de passer sur quelque chose de plus traditionnel? C'est un truc, toi, qui te fait pas peur?
C'est pas que ça me fait peur, mais je me pose des questions quand même, parce que c'est vrai qu'on fait un job déjà pour lequel on est hyper passionné et très dévoué, et c'est un sport qui nous procure un travail plutôt qui nous procure
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Des choses incroyables, l'adrénaline, le stress, les victoires, les défaites. Et je pense que c'est quelque chose que tu as moins dans un travail de tous les jours. Et je pense que peut-être le retour au vrai travail, à la réalité, ça sera un petit peu bizarre, quoi.
Écoute, de toute façon, pour le moment, on n'en est pas encore là, donc je te souhaite de continuer encore de belles années de ski devant toi. Pour revenir un peu à ta préparation, pour revenir aussi sur l'aspect mental, parce que moi, je trouve que c'est un truc qui est hyper important et un truc dont on ne parle pas forcément beaucoup non plus chez les sportifs de haut niveau, mais... Quel rôle il joue, toi, dans ta préparation globale, on va dire, et en quoi ça t'aide à être une meilleure athlète?
Surtout dans le sport de très haut niveau, le mental, ça fait énormément la différence, parce que, après, c'est ma vision des choses, hein, chacun a son avis et a sa vision, mais je pense que au bout d'un certain temps, tous les athlètes sont capables de gagner des Coupes du Monde, d'être dans le top 5 mondial. Mais il y a tellement un degré de stress, de pression, d'adrénaline qui est dur à gérer et qui fait souvent perdre ses moyens que c'est là que le côté mental reprend le dessus et permet de faire face à tout ça et du coup de pallier un peu à ces petites choses qui peuvent te faire perdre des moyens en compétition. Et du coup, pour moi, ouais. Je pense que c'est crucial dans le sport de haut niveau d'avoir une préparatrice mentale. Après, chaque athlète est différent, hein. Mais souvent, je trouve que le mental, c'est ce qui fait la différence. Et tous les très grands champions ont un mental de fou, quoi.
Pour rebondir là-dessus aussi, sur l'aspect, on parle de l'aspect préparation, mais est-ce que ton métier, il t'autorise, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, à développer d'autres passions à côté, ou, comme tu le disais, le ski, en fait, c'est un investissement à 100%, et c'est difficile pour toi, de que ce soit des passions ou même d'autres choses à côté. Je sais que tu fais aussi des études, il me semble, quand même.
J'en suis arrivée à un stade où le sport, le ski me prend beaucoup de place dans ma vie et j'ai très peu de temps pour faire autre chose parce qu'il y a toutes les sollicitations en plus des heures d'entraînement, toutes les journées avec les partenaires et ça prend énormément de temps. Et ça laisse très peu du coup de temps pour faire autre chose et même pour faire des études. Je pensais finir ma licence cette année, mais ça a juste été impossible d'aller en cours tout le temps parce que j'avais 100 000 trucs à faire.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que j'ai pas le temps de faire autre chose. Après, je sais que ça fait partie du taf. J'essaye de m'organiser au mieux pour avoir un petit temps de temps en temps à côté pour oublier un petit peu toute cette vie-là, pour avoir une vie sociale aussi, voir les amis, voir la famille. Et faire juste quelques sports à côté, un petit peu pour le plaisir, quoi.
J'imagine qu'en plus, comme dans tout métier, à un moment donné aussi, t'as besoin un peu d'une soupape de décompression pour pouvoir même revenir, toi, avec la passion, avec la foi. Cette soupape, tu la trouves quand même? T'arrives quand même à la trouver?
Maintenant, je le gère mieux. Je le gère beaucoup mieux parce que j'ai eu des périodes où j'en pouvais plus, où j'avais la tête sous l'eau et j'arrivais pas à m'organiser. Maintenant, on va dire que j'ai des personnes qui m'aident à mieux gérer mon emploi du temps, à gérer des choses que maintenant je peux plus gérer. Et ça me permet de libérer un peu plus de temps pour que ce soit du temps pour moi, où je peux partager avec, comme je disais, mes amis, ma famille, ou faire autre chose que du ski, quoi.
Mais c'est pareil, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu avais donc ton métier principal qui est quand même de faire du ski et qu'à côté tu avais toutes les sollicitations qui te prenaient vachement de temps et qui étaient, c'est un peu limite un second métier que tu as à côté parce que c'est des obligations qui sont liées à ton premier métier qui est le ski. Ça c'est pas un truc sur lequel quand on est sportif de haut niveau à la base on a forcément signé, si je puis dire, de répondre à des interviews, de répondre à des sollicitations diverses et variées. Comment toi tu le vis? Est-ce que c'est un truc finalement que maintenant t'as, c'est tellement devenu habituel que ça fait partie du job, ou est-ce que c'est toujours un truc qui est un peu compliqué à gérer aussi à côté?
Maintenant, je suis quand même assez habituée et je sais gérer tout ça. Et comme j'ai dit, j'ai des personnes qui m'aident à le gérer. J'ai un attaché de presse qui fait tous les médias, où on essaye vraiment de cibler sous quel axe on veut aller et comment on veut communiquer pour pas partir dans tous les sens et que ça nous facilite la tâche. Pareil avec tout le travail fait avec les partenaires. J'ai une avocate qui s'occupe de ça pour faire exactement la même chose que l'attaché de presse. Et donc moi, me libérer tout ça, toute cette charge de travail. Parce que avant c'était ma maman et moi qui le faisions, et on le faisait un petit peu à tâtons parce que c'était pas vraiment notre métier, on savait pas trop le faire. Donc au bout d'un moment j'ai dû me professionnaliser et du coup ça a fait que maintenant je gère mieux toutes les sollicitations, on répond mieux à la demande et on cible mieux parce que je travaille avec des professionnels et que eux, c'est leur métier et qu'ils savent le faire, quoi.
C'est quelque chose maintenant aussi quand on est sportif de haut niveau finalement qui est un peu inévitable. Mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours délicat parce que ça reste pas ton métier premier, quoi.
Oui, clairement. Et puis j'ai pas fait des études pour gérer ça. Moi j'ai fait un bac S, donc rien à voir avec la presse et le business, on va dire. Donc, ouais, je suis rentrée dans ce milieu-là. Vraiment, j'étais perdue. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Après, j'ai eu la chance d'être toujours bien entourée. Et puis, bah, y a d'autres sportifs qui m'ont appris à gérer tout ça, qui m'ont donné des conseils un petit peu. Et du coup, bon, bah, petit à petit, voilà, j'ai compris, j'ai grandi, j'ai appris des de mes erreurs aussi. Et du coup, bon, bah, ça fait que maintenant, je le gère plutôt bien, quoi.
D'ailleurs, est-ce que quand on est athlète de haut niveau comme toi, et en particulier dans ta discipline, il y a des contraintes qu'on n'imagine pas forcément? Alors, pas forcément des choses, tu vois, c'est débile, hein, mais moi, je pensais, par exemple, j'ai fait de la gymnastique rythmique à haut niveau pendant un certain temps. Il y avait un truc, moi, qui m'a traumatisée dans ma jeunesse, c'est que je ne pouvais pas couper mes cheveux, tu vois, parce qu'on était obligé d'avoir des chignons.
Ouais.
On était obligé d'avoir des chignons en compétition et que du coup, pendant 10 ans, j'ai pas pu couper mes cheveux. C'est débile, hein, comme exemple, mais tu vois, est-ce que toi aussi dans ta discipline...
Est-ce que toi aussi dans ta discipline... Du coup, t'as les cheveux courts maintenant.
Ouais, bah maintenant, j'ai les cheveux carrés. Exactement. C'est le premier truc que j'ai fait en arrêtant les compétitions, j'ai été me couper les cheveux direct. Est-ce que toi aussi dans ta discipline, il y a des contraintes comme ça que, avec lesquelles tu dois évoluer et avec lesquelles tu t'es accommodé peut-être aussi au fil du temps?
Non, en vrai, il n'y a pas des choses ici, cheveux. Mais non, c'est plus, je dirais, bon, après, ça fait partie, c'est pareil pour tous les sportifs, mais c'est l'hygiène de vie, je pense,
ouais.
La plus dure à gérer, où il faut se coucher tôt, il faut bien manger, il faut bien dormir, faut pas trop brasser à droite à gauche, faut faire attention à pas trop marcher entre les entraînements, à bien se reposer. Mmh. C'est peut-être ça qui est le plus contraignant, je dirais. Mais après, non, j'ai pas des problèmes capillaires.
C'était vraiment le meilleur exemple.
Ah bah, c'est clair.
Le meilleur exemple. Merci beaucoup Perrine de me renvoyer. Moi, je plaisante. Aussi, du coup, effectivement, moi, il y a un point que je trouve assez intéressant, c'est que toi, t'as performé très vite. Tu le dis souvent, d'ailleurs, dans les interviews que t'as faites. Très jeune, très vite, très jeune. T'as tout gagné. Maintenant, t'as toutes les compétitions que tu pouvais gagner, tu les as toutes gagnées. Je crois qu'il te manquait celle en single que t'as remportée en championnat du monde cette année.
Ouais.
Est-ce que t'as l'impression aussi que, étant donné ton parcours un peu précoce, ça a changé ta perception de l'âge, de la maturité? Enfin, tu vois que finalement, maintenant, toi, t'as déjà eu, t'as presque 10 ans de carrière déjà à 22 ans. Enfin, c'est assez fou. Est-ce que tu te sens un peu en décalage avec les gens de ton âge, ou en tout cas avec... Est-ce que t'as l'impression d'avoir grandi plus vite?
Oui, clairement. Et j'ai surtout senti le décalage au début de ma carrière, donc quand j'avais à peu près 14-15 ans, parce que bah, il a fallu être autonome très vite dans le sport de haut niveau. T'as pas l'entraîneur, ouais, qui passe derrière toi pour savoir si t'as pris tes chaussettes, ton masque et tes chaussures de ski. Donc il faut avoir une certaine autonomie. Et puis le fait de gérer le stress en compétition, de gérer bah, par exemple les demandes d'interview, les demandes de partenariat, chercher des partenaires, les démarcher, je pense que oui, ça m'a fait grandir plus vite. Et, et je suis arrivée dans la vie adulte plus rapidement et grâce plutôt au sport de haut niveau. Après, maintenant, à 22 ans, j'ai envie de dire que toutes les personnes de ma génération commencent à rentrer un petit peu dans la vie active et sont en fin d'études. Donc, on retrouve un petit peu de similitudes. Mais mine de rien, ça me faisait du bien aussi de retourner avec les gens de mon âge parce que bah voilà, je retournais avec des gens avec qui j'avais les mêmes délires et puis ça me faisait redevenir une jeune fille de mon âge, quoi, aussi.
Il y a ce que je dis ça aussi parce que t'as que 22 ans et t'es aussi déjà très engagée, moi je trouve, pour ton âge, que ce soit pour la jeunesse, pour l'écologie, chose que certains sportifs font plus sur leur fin de carrière souvent. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir des engagements dès maintenant et pourquoi tu le fais en fait?
Déjà, je le fais parce que j'y suis sensibilisée tous les jours. Typiquement, l'exemple où on est à Tignes sur le glacier, moi ça fait faire 8 ans que je viens et j'ai vu à quel point le glacier pouvait fondre vite à cause du réchauffement climatique. Donc on va dire que j'y suis sensibilisée parce que je fais un sport où on est aux premières loges de ce réchauffement climatique et on est les premiers à impacter. Donc ça me tient à cœur de défendre cette cause. Et pour l'autre question de pourquoi le faire maintenant, bah parce que c'est maintenant qu'il faut changer les choses et c'est pas dans 5 ou 10 ans où il faudra se dire ah bah mince, faudrait peut-être qu'on fasse ça. Je dirais au plus tôt, au mieux c'est. Donc voilà.
Et j'ai l'impression aussi, dis-moi si je me trompe, mais que tu as vraiment une volonté de transmission. D'aller voir aussi les plus jeunes et de les sensibiliser. Alors peut-être aussi le fait que tu sois toi-même jeune, le message passe peut-être aussi mieux. Mais je sais pas, ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là aussi que toi, t'as envie de transmettre et peut-être de rendre aussi un peu ce qu'on t'a donné toi, que ce soit à travers ta carrière ou à travers ce que t'as pu vivre ou voir, quoi.
Ouais, clairement, je pense que ouais, c'est vraiment ce que t'as dit. Je suis jeune et je me sens plus proche des jeunes que peut-être plus les gens de 35, 40 ans. Et pour moi, les jeunes aussi, c'est les générations futures. Donc, si déjà très jeune, t'inculques les bonnes bases, les bons réflexes, bah, c'est des choses que tu garderas sûrement à vie. Alors que bon, bah, c'est vrai que typiquement, ma grand-mère, voilà, elle, le réchauffement climatique, c'est plus difficile à elle de changer ses habitudes parce qu'elle a fait ça toute sa vie et que bon, bah, elle y sera moins impactée. Alors que les jeunes, typiquement, de maintenant, bah c'est leur avenir, c'est le problème qui va les suivre toute leur vie, donc autant faire des actions avec eux directement, quoi.
Et est-ce que t'as envie aussi à travers tes engagements ou à travers ton sport un peu d'avoir un vrai impact, de marquer un peu de te servir de ta carrière professionnelle en tant que sportive pour faire changer les choses à différents niveaux?
C'est pas mon but de vie de laisser une marque dans l'histoire, mais plutôt de me servir un petit peu de l'aura que m'a permis d'avoir le ski pour faire changer les choses, parce que bon, on voit que des fois, si tu t'appelles Zidane ou machin chouette, bon, forcément, si tu demandes de faire un truc aux gens, t'auras plus d'influence que quelqu'un qui est pas du tout connu. Donc c'est plus me servir de ça pour communiquer avec la jeunesse et les gens plutôt que de vouloir marquer les esprits pour ça, quoi.
En parlant de notoriété, toi, la majeure partie des Français t'ont connu le 11 février 2018 quand t'as ramené la première médaille tricolore au JO de Pyeongchang. Avant ça, franchement, je ne m'avance pas trop en disant que tu pratiquais une discipline qui était quand même globalement assez peu connue du grand public. Aujourd'hui, là, je suis tombée dessus tout à l'heure. Donc, d'après les sondages, tu es la sportive préférée des Français à égalité avec la footballeuse Eugénie Le Sommer.
Okay.
Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Je suis tombée sur un...
Non, du tout.
Je suis tombée sur un sondage Odoxa réalisé pour RTL et Winamax, qui est sorti en fin d'année 2020. Okay. Et donc, effectivement, qui te mettait première à égalité avec Eugénie Sommer. Chez les garçons, c'était Martin Fourcade, d'ailleurs. Tu vois, on est aussi dans les sports d'hiver. Est-ce que d'ailleurs, ça te surprend, ce genre de truc? Ça te fait ressentir quoi de te dire qu'en 3 ans, plus ou moins, de 1, t'es devenue une vraie personnalité du sport français, et de 2, t'as aussi mis un énorme spotlight sur ta discipline, quoi?
Ouais, ça fait bizarre parce que tu passes de l'ombre à la lumière et on voit à quel point les jeux ça peut changer toute une vie, quoi. Parce que une médaille olympique, du coup ça change ton quotidien, et la preuve, je suis passée de l'inconnu total à une des sportives,
la sportive préférée des Français.
et c'est clair que oui, ma discipline, elle était tombée un petit peu dans l'ombre parce qu'il y avait eu moins de résultats au jeu, et typiquement t'as moins de résultats, moins de médias, et voilà, c'est le cercle vicieux. Il y a eu un gros éclairage sur ma discipline en 92 avec les Jeux d'Albertville quand Gros-Piron y gagne. Gros-Piron, c'était la référence du ski de bosse. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu un petit peu moins de résultats. Il y a quand même eu Richard Gay en 2002 à Salt Lake. Il y a eu Sandra Laura en 2006. Mais il y a quand même surtout dans des disciplines diverses, je trouve, et dans des petites disciplines comme ça, il y a quand même une grosse différence déjà entre une médaille d'or et une médaille de bronze. Typiquement, ce que ça fait pas en athlétisme, par exemple, qui sont vraiment les grosses disciplines des jeux. Et on voit que ça a remis un gros coup de lumière, du coup, ma médaille d'or en 2018 sur ma discipline, ouais.
Et que ça n'a pas été trop dur à vivre, ça, d'ailleurs, pour toi, à ce moment-là? Ça n'a pas été un peu violent?
Ça a été bizarre, hein.
Tu m'étonnes.
Ouais, ça, c'est vraiment, c'était sur une autre planète, quoi. Mon téléphone qui sonnait toute la journée. Bon, il continue de sonner quand même souvent. Mais ouais, je suis rentrée déjà, c'était un truc de malade, quoi. Enfin, vraiment, on me reconnaissait à Paris dans la rue, alors que bon, bah, Paris, le sport, c'est quand même pas ça, et encore moins les sports d'hiver. Et donc ouais, c'était vraiment un truc de fou, quoi.
Ça doit être hyper violent, on se rend pas compte, parce que ça doit être hyper violent. T'avais 19 ans en plus au ouais. moment de ta médaille, donc t'étais super jeune. De se prendre comme ça dans la tête un déferlement médiatique et quand t'as pas forcément l'habitude, ça, enfin, moi je peux imaginer qu'effectivement ça peut vite te déstabiliser, quoi.
Un petit peu, oui. Après, c'est vrai que j'avais eu l'expérience de Sochi, où Sochi, je fais une super quali, je fais 5e, donc à 15 ans, faire 5e des qualifications, c'était genre, c'était la fête au village, c'était n'importe quoi. et du coup, j'avais eu un petit peu, ce rebond médiatique et même si c'était resté quand même assez discret, j'avais eu pas mal de sollicitations après Sochi parce que j'étais la plus jeune et du coup que ça avait fait du bruit et donc j'avais eu un petit peu je savais un petit peu ce que c'était, mais c'est vrai que bon bah là avec une médaille autour du cou, ça a décuplé les choses. Après, bon, bah voilà, j'avais 19 ans, j'étais bien entourée, j'avais du monde autour de moi, donc on l'a quand même bien géré, quoi.
On sent que t'es une passionnée, et que t'es vraiment profondément amoureuse de ta discipline. T'as commencé, t'avais 2 ans, je crois. Enfin, c'est une pratique de famille. Est-ce que finalement, maintenant, au-delà même des médailles, au-delà de tout ça, c'est pas la passion, en fait, juste et l'amour de ta discipline aussi qui te fait continuer et de vouloir continuer de performer dans ta discipline?
Si, si, typiquement, oui, parce que de toute façon, pour moi, le plaisir et le bonheur que j'ai à m'entraîner fait partie vraiment de tous les résultats que j'ai. Si je me faisais pas plaisir et si j'étais pas heureuse dans ce que je fais, j'aurais pas eu tous les résultats que j'ai eus. Donc, pour moi, c'est déjà le plus important. D'être heureuse dans ce que je fais, et après les résultats c'est secondaire, parce que si t'es pas heureuse dans un sport alors que tu te fais mal tous les jours et que t'en baves, que des fois tu finis l'entraînement à pleurs, ça sert à rien de continuer si ça te plaît pas, quoi. Donc pour moi, oui, c'est le plus important, et d'autant plus maintenant où j'ai tout gagné dans mon sport. Et tout le monde me dit, mais est-ce que t'es encore motivée et tout? Enfin, t'as tout gagné, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer? Bah oui, typiquement, parce que je suis amoureuse de ma discipline et que je me régale d'aller à l'entraînement, de faire du ski en plein mois de juillet. Et que, du coup, c'est pour ça que je continue et que c'est hyper important de se faire plaisir dans ce qu'on fait tous les jours.
Et c'est quoi tes objectifs? Là, dans le futur, alors futur proche, futur lointain?
Franchement, je m'en suis pas vraiment fixée. Et encore plus maintenant que j'ai fini la boucle. Je me sens... Enfin, c'est déjà incroyable ce que j'ai réussi à faire dans le sport. Enfin, si il y a 6 ans, on m'avait dit que j'allais faire tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, je n'y aurais pas cru. Donc... j'ai envie de profiter de ça et puis de continuer à m'entraîner, de me faire plaisir à l'entraînement, et on verra jusqu'où ça m'emmène, quoi.
Je pense que c'est une bonne philosophie de vie. Et c'est vraiment aussi une philosophie. Ouais, c'est clair. Et c'est aussi, je pense, une façon de toi aussi de te mettre peut-être moins de pression et peut-être les attentes que du coup les gens ont aussi autour de toi maintenant.
Ouais, vraiment, parce que typiquement, les gens maintenant, ils veulent les résultats et c'est tout. Mais bon, t'as pas des résultats sans le plaisir que tu prends à l'entraînement et sans être passionné de ce que tu fais, parce que. Bah oui, ça a l'air tout beau, tout flamme, mais c'est quand même dur. Enfin, il faut avoir envie de se les enquiller, toutes les charges de travail. Hein. Si t'es pas motivé, si t'es pas amoureux de ce que tu fais, si tu prends pas de plaisir à ce que tu fais, ça sert à rien. Donc, il y aura pas de résultat. Donc, ça sert à rien de parler de résultats si premièrement, t'es pas heureux dans ce que tu fais.
Bon message. Message globalement à retenir sur tout, je pense, d'ailleurs, dans la
vie. Ouais, mais vraiment. C'est même une philosophie de vie. Enfin,
c'est clair.
Enfin, tout est tellement plus agréable et tu te fais tellement plus mal au travail si tu fais quelque chose qui te plaît, quoi. Moi, c'est sûr qu'après ma carrière, j'aurais du mal à envisager. Bon, après, s'il y a que ça, il y a que ça, mais j'aurais du mal à envisager de faire un travail qui me plaît pas, quoi.
T'as bien raison. T'as bien raison. Pour finir le podcast, on pose toujours 2 questions à toutes nos invitées qui sont toujours les mêmes. La première, c'est quel est ton souvenir de sport le plus marquant? Ça peut être un moment que toi, t'as vécu ou un moment que t'as vu à la télé ou que t'as vécu et qui a été important pour toi.
Ouais, je pense que ce serait Usain Bolt, finale du 100 mètres au jeu à Londres.
Ouais, pourquoi ?
Bah, parce que, enfin, le mec, c'est un truc... c'est peut-être 2016, en fait. Je sais plus. Parce que, enfin, le charisme du mec, quoi. C'est juste incroyable ce qu'il dégage. Et puis, en vrai, je kiffe le 100 mètres. C'est court, c'est simple, c'est efficace. Et puis, tu te poses pas 5000 questions avec des compétitions qui durent 3 jours. Et je sais pas, ouais, franchement, quand je l'ai regardé, ça m'a donné les frissons. Et c'est juste trop beau. Après, ben, franchement, toutes les disciplines, quand ça performe et tout, ça te met des étoiles dans les yeux. Hein.
Ah ouais, c'est marrant. Donc, toi, c'est rigolo. Ouais, sur l'athlétisme, sur quelque chose qui est hyper différent de toi, c'est limite plus la. Au-delà de la performance, c'est aussi le charisme du mec qui a été marquant pour toi.
Ouais, vraiment.
Ah ouais, c'est marrant. C'est carrément. Bah, en même temps, c'est ce qui fait aussi un athlète, et c'est ce qui fait aussi que les athlètes, je pense, maintenant, plaisent aussi au public, quoi. C'est ce mix de performance et ce mix de personnalité, et je pense que t'en es relativement l'image aussi maintenant sur cette nouvelle génération. Non, c'est vrai. Je le pense. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est forcément, donc notre podcast s'appelle Championne du Monde. Quelle est ta définition à toi de ce qu'est une championne ?
Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui travaille dur pour les objectifs qu'elle s'est fixé, du coup. Et que peu importe les obstacles, peu importe les problèmes ou même les blessures qui peuvent arriver, elle essayera de trouver toujours une solution et de se faire aider par quelqu'un pour arriver au bout de ses objectifs.
Je te remercie beaucoup pour ce petit temps. Je crois que tu as entraînement juste derrière. Donc,
je vais
malheureusement pas pouvoir te garder plus longtemps. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce petit moment. Je suis ravie d'avoir pu parler avec toi. Et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais malheureusement, écoute... Ouais.
Tu m'attends là.
C'est ton métier, hein, comme on l'a dit. Ouais, donc
j'ai le bon, tu vois, si je suis pas là à 15h30 et moins 10% sur le salaire.
Voilà, j'ai pas envie de te voir devoir des sous derrière, donc ouais, je vais te laisser.
Juste 100 pompes, donc t'en feras 50 et j'en ferai 50.
Ça marche, je me filme, je te les envoie derrière. Ça marche, bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis je te souhaite une bonne préparation d'ici les JO et puis toujours beaucoup de bonheur, de plaisir dans ce que tu fais et avec grand plaisir pour refaire une version 2 après peut-être les JO où on prendra encore plus le temps de parler d'autres choses. Merci beaucoup en tout cas, Perrine.
Merci, à bientôt.
Et puis à bientôt. Salut. Ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt !